Compréhension de l'oral, niveau avancé. Sujet numéro 1. Vous avez 2 minutes pour lire les consignes. Sujet numéro 1, document sonore, première écoute.
C'est l'histoire de deux frères habitant Lyon en France et qui vont retourner sur les terres de leurs parents décédés à Sétif en Algérie pour s'occuper de la maison familiale à l'abandon. L'arbre ou la maison ? C'est le nouveau roman d'Azouz Begag. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez raconté votre enfance dans un bidonville près de Lyon, dans l'un de vos premiers livres, Le Gaune du Chabat. Comment vous avez été le seul enfant à peu près de ce milieu à réussir à l'école et à réussir dans la vie aussi, on peut le dire comme ça. Vous avez un doctorat, vous êtes chercheur au CNRS, vous avez même été ministre, on va en parler avec vous. Et vous avez publié aujourd'hui 20aine de romans. C'est votre histoire, Azouz Begag, ce roman, L'arbre ou la maison, c'est un récit autobiographique. Vous avez vraiment fait ce voyage avec votre frère, jusqu'à Sétif, en avion, pour aller vous occuper de la maison familiale qui était à l'abandon. Et là, vous tombez sur un arbre qui est en train de tout envahir, ou en tout cas de menacer cette maison. Ouais, c'est quoi l'image? C'est quoi la métaphore, Azouz Begag?
Non, c'est l'histoire des racines. Mon père avait construit cette maison dans les années 60 pour préparer notre retour au bled, comme tous les Italiens l'ont fait, comme tous les Espagnols, les Portugais, les Polonais qui sont venus en France ou en Belgique dans l'après-guerre. Et ils ont tout de suite préparé leur retour avec la construction d'une maison là-bas, une maison très pauvre avec des éléments rudimentaires. Et sauf que mon père a construit cette maison et il aimait beaucoup les arbres. Il a planté un arbre devant l'entrée. Et 50 ans après, cet arbre qui mesure 30 mètres, avec son arrogance, est en train de manger les racines de la maison.
Vous écrivez que votre père, en France, il n'est personne. Juste un numéro de sécurité sociale et une carte de travail. Mais en Algérie, à Sétif, chez lui, il est quelqu'un avec une histoire, une terre, des amis. Il n'a pas besoin de papier pour prouver son identité. Vous le ressentez aussi, ça? Ou vous êtes d'une génération qui ne ressent plus du tout cette difficulté d'être immigré en France, oui, d'être chez soi en Algérie?
C'est drôle parce que nous, après les enfants, nés en France et en Belgique, nous, on a le même problème, mais quand on va là-bas, quand on retourne sur les traces de nos ancêtres, sur nos terres natales, on n'est plus personne parce que tout a changé. On nous traite de Français. Et quand on est en France ou en Belgique, eh bien, on est des Arabes, on est des musulmans, on est des gens qui ne sont pas encore complètement...
Immigrés, étrangers partout, finalement. Et vous, Azouz Begag, vous vous sentez français ? algérien.
Je me sens en vérité en construction, parce que pour moi, une identité, c'est jamais fixe. Quand on sort à la vie, quand on n'a pas dans un sac en bandoulière une identité qu'on doit protéger coûte que coûte jusqu'à la fin de sa vie. Que nenni, au contraire. On est dans des phases de construction identitaire, d'identification permanente avec des gens qu'on rencontre. Et c'est ça, à la fin d'une vie, l'identité qu'on aura acquise. Mais moi, je suis ouvert, je suis un homme, un être universel, ouvert sur les autres, bien entendu.
Sujet numéro 1, document sonore, deuxième écoute.
C'est l'histoire de deux frères habitant Lyon, en France, et qui vont retourner sur les terres de leurs parents décédés à Sétif, en Algérie, pour s'occuper de la maison familiale à l'abandon. L'arbre ou la maison ? C'est le nouveau roman d'Azouz Begag. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez raconté votre enfant dans un bidonville près de Lyon, dans l'un de vos premiers livres, Le Gaune du Shabbat. Comment vous avez été le seul enfant à peu près de ce milieu à réussir à l'école et à réussir dans la vie aussi, on peut le dire comme ça. Vous avez un doctorat, vous êtes chercheur au CNRS, vous avez même été ministre, on va en parler avec vous. Et vous avez publié aujourd'hui une vingtaine de romans. C'est votre histoire, Azouz Begag, ce roman, L'arbre ou la maison, c'est un récit autobiographique. Vous avez vraiment fait ce voyage avec votre frère, jusqu'à Sétif, en avion, pour aller vous occuper de la maison familiale qui était à l'abandon. Et là, vous tombez sur un arbre qui est en train de tout envahir, ou en tout cas de menacer cette maison. Ouais, c'est quoi l'image ? C'est quoi la métaphore, Azouz Begag ?
Non, c'est l'histoire des racines. Mon père avait construit cette maison dans les années 60 pour préparer notre retour au bled, comme tous les Italiens l'ont fait, comme tous les Espagnols, les Portugais, les Polonais qui sont venus en France ou en Belgique dans l'après-guerre. Et ils ont tout de suite préparé leur retour avec la construction d'une maison là-bas, une maison très pauvre avec des éléments rudimentaires. Et sauf que mon père a construit cette maison et il aimait beaucoup les arbres. Il a planté un arbre devant l'entrée. Et 50 ans après, cet arbre qui mesure 30 mètres, avec son arrogance, est en train de manger les racines de la maison.
Vous écrivez que votre père, en France, il n'est personne. Juste un numéro de sécurité sociale et une carte de travail. Mais en Algérie, à Sétif, chez lui, il est quelqu'un avec une histoire, une terre, des amis. Il n'a pas besoin de papier pour prouver son identité. Vous le ressentez aussi, ça, ou vous êtes d'une génération qui ne ressent plus du tout cette difficulté d'être immigré en France, oui. D'être chez soi en Algérie.
C'est drôle parce que nous, après les enfants, nés en France et en Belgique, nous, on a le même problème, mais quand on va là-bas, quand on retourne sur les traces de nos ancêtres, sur nos terres natales, on n'est plus personne parce que tout a changé, on nous traite de Français. Et quand on est en France ou en Belgique, eh bien, on est des Arabes, on est des musulmans, on est des gens qui ne sont pas encore complètement...
Immigrés, étrangers partout, finalement. Et vous, Azouz Begag, vous vous sentez français ? Algérien ?
Je me sens en vérité en construction, parce que pour moi, une identité, c'est jamais fixe. Quand on sort à la vie, quand on n'a pas dans un sac en bandoulière une identité qu'on doit protéger coûte que coûte jusqu'à la fin de sa vie. Que nenni, au contraire. On est dans des phases de construction identitaire, d'identification permanente avec des gens qu'on rencontre. Et c'est ça, à la fin d'une vie, l'identité qu'on aura acquise. Mais moi, je suis ouvert, je suis un homme, un être universel, ouvert sur les autres, bien entendu.
Sujet numéro 2. Vous avez 2 minutes pour lire les consignes. Sujet numéro 2, document sonore, première écoute.
Emmanuel Moreau, la bonne idée du jour nous vient de Lyon où des étudiants vétérinaires donnent de leur temps pour soigner les animaux des personnes sans domicile fixe.
Anna Alcan, 25 ans, Mathilde, est la coprésidente de l'association Dispensaire Vétérinaire Étudiant de l'École Vétérinaire de Lyon. Elle a la chance d'avoir avec elle 115 étudiants bénévoles prêts à aller sur le terrain. Ils se répartissent entre les permanences dans les foyers d'hébergement où ils peuvent prodiguer des soins et les maraudes où légalement ils ne peuvent que donner des conseils. C'est ainsi que 2 fois par semaine, on les voit sillonner avec leur petit chariot le quartier des Cordeliers à pied. Anna a participé à la maraude de la semaine dernière.
Lors de notre dernière maraude, on a vu en tout 25 chiens. On a souvent cette image d'un animal pas forcément en forme. Au contraire, là, on a des animaux qui vont tous bien et qui sont contents de nous voir, surtout. On reconnaît, dès qu'ils voient notre petit chariot, ils aboient et ils viennent vers nous. Alors concrètement, on est surtout là pour distribuer des croquettes, des colliers, des laisses. Dans les maraudes, vraiment, on reste uniquement sur de la distribution de croquettes. On n'amène pas de stéthoscope, on n'amène rien. Même pour faire un bandage, on n'a pas le droit. Et du coup, on va voir s'il y a des questions, réorienter sur nos permanences. et puis vraiment prendre le temps de discuter avec les personnes.
Garder le lien est essentiel. Et justement, Anna, vous avez décidé de faire votre thèse sur la recherche de nouvelles solutions pour les animaux des personnes à la rue, car vous avez constaté combien l'animal était un vecteur de lien social.
Moi, j'ai une personne qu'on voit uniquement en accueil de jour. C'est une personne qui a perdu sa femme et ses enfants, qui avant avait un métier, un logement, et qui après cette perte a décidé de vivre dans la rue, de prendre un animal. Et en fait, cette personne, elle ne souhaitait plus communiquer avec d'autres personnes. Et puis, elle a accepté de revenir dans un foyer uniquement parce que son animal avait besoin de soins. Et on s'est vraiment rendu compte que sa vie tournait autour de son animal. Et par exemple, la proposition d'un logement social lui avait été faite, mais par contre, la condition, c'était de ne pas prendre son animal. Et c'est clair et net, c'est hors de question qu'elle laisse son animal. Donc, cette personne-là, malheureusement, elle préfère être dans la rue. Elle vit dans une tente. Et puis, elle nous raconte assez simplement que c'est tellement important ce lien avec son animal que tant pis, quoi, qu'elle restera avec lui, mais que son animal passe avant tout et passe avant cette possibilité d'accéder à un logement social.
En attendant de finir sa thèse, Anna vient d'écrire au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation pour obtenir l'autorisation avec son association de pouvoir dispenser des soins ambulants avec une camionnette qui pourrait sillonner tout Lyon.
L'esprit d'initiative, c'est la chronique d'Emmanuel Moreau.
Sujet numéro 2, document sonore, deuxième écoute.
Emmanuel Moreau, la bonne idée du jour nous vient de Lyon où des étudiants vétérinaires donnent de leur temps pour soigner les animaux des personnes sans domicile fixe.
Anna Alcan, 25 ans, Mathilde, est la coprésidente de l'association Dispensaire Vétérinaire Étudiant de l'École Vétérinaire de Lyon. Elle a la chance d'avoir avec elle 115 étudiants bénévoles prêts à aller sur le terrain. Ils se répartissent entre les permanences dans les foyers d'hébergement où ils peuvent prodiguer des soins et les maraudes où légalement ils ne peuvent que donner des conseils. C'est ainsi que deux fois par semaine, on les voit sillonner avec leur petit chariot le quartier des Cordeliers à pied. Anna a participé à la maraude de la semaine dernière.
Lors de notre dernière maraude, on a vu en tout 25 chiens. On a souvent cette image d'un animal pas forcément en forme. Au contraire, là, on a des animaux qui vont tous bien et qui sont contents de nous voir, surtout. On reconnaît, dès qu'ils voient notre petit chariot, ils aboient et ils viennent vers nous. Alors concrètement, on est surtout là pour distribuer des croquettes, des colliers, des laisses. Dans les maraudes, vraiment, on reste uniquement sur de la distribution de croquettes. On n'amène pas de stéthoscope, on n'amène rien. Même pour faire un bandage, on n'a pas le droit. Et du coup, on va voir s'il y a des questions, réorienter sur nos permanences. Et puis vraiment prendre le temps de discuter avec les personnes.
Garder le lien est essentiel. Et justement, Anna, vous avez décidé de faire votre thèse sur la recherche de nouvelles solutions pour les animaux des personnes à la rue, car vous avez constaté combien l'animal était un vecteur de lien social.
Moi, j'ai une personne qu'on voit uniquement en accueil de jour. C'est une personne qui a perdu sa femme et ses enfants, qui avant avait un métier, un logement, et qui, après cette perte, a décidé de vivre dans la rue, de prendre un animal. Et en fait, cette personne, elle ne souhaitait plus communiquer avec d'autres personnes. Et puis, elle a accepté de revenir dans un foyer uniquement parce que son animal avait besoin de soins. Et on s'est vraiment rendu compte que sa vie tournait autour de son animal. Et par exemple, la proposition d'un logement social lui avait été faite. Mais par contre, la condition, c'était de ne pas prendre son animal. Et c'est clair et net, c'est hors de question qu'elle laisse son animal. Donc, cette personne-là, malheureusement, elle préfère être dans la rue. Elle vit dans une tente. Et puis, elle nous raconte assez simplement que c'est tellement important ce lien avec son animal que tant pis, quoi, qu'elle restera avec lui, mais que son animal passe avant tout et passe avant cette possibilité d'accéder à un logement social.
En attendant de finir sa thèse, Anna vient d'écrire au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation pour obtenir l'autorisation avec son association de pouvoir dispenser des soins ambulants avec une camionnette qui pourrait sillonner tout Lyon.
L'esprit d'initiative, c'est la chronique d'Emmanuel Moreau.
Sujet numéro 3. Vous avez 2 minutes pour lire les consignes. Document numéro 1.
Une dizaine de personnes sont réunies autour de la table et se livrent au rituel des présentations.
Bonjour, je m'appelle Bénédicte. Je viens assez régulièrement petite cantine, un mal de temps. Ma météo du jour, ça va super bien, je suis contente. Je suis toujours contente de venir aux petites cantines.
Des retraités, des actifs, des étudiants, la seule chose qui réunit toutes ces personnes, c'est l'envie de passer un bon moment ensemble, explique la maîtresse de maison Orlane, salariée de l'association.
Il y a beaucoup de gens qui peuvent vivre des moments de solitude pour x et y raison et qui souhaiteraient avoir un lieu de vie, un lieu où ils peuvent venir, la porte est toujours ouverte, rencontrer des gens, créer du lien, partager voilà, des moments conviviaux. Quand on cuisine ensemble, quand on épluche des légumes, qu'on fait un bout de vaisselle, et ben on papote, on discute, on crée quelque chose.
Document numéro 2.
Un local au rez-de-chaussée de la fac de droit et de lettres, des rayons où sont entreposés des conserves, des condiments, des céréales, bref, une épicerie. Sauf qu'elle est réservée aux étudiants, malheureusement de plus en plus nombreux à être dans la précarité. Moulay Mamedi, étudiant en droit et l'un des responsables de l'épicerie, connaît bien le problème.
Déjà, je le vis. Moi, ça fait 6 ans que je suis étudiant, 6 ans que je suis en précarité.
Raison pour laquelle la Fédération étudiante de Bourgogne Interassociation, la FEBIA, a donc monté cette épicerie dont les produits à prix très réduits proviennent pour partie de la Banque alimentaire de Bourgogne et de chaînes de la grande distribution partenaire.
Document numéro 3.
J'ai peut-être trouvé avec Deliveru, un mouvement citoyen né en 2020 à Montpellier, l'exemple type de la solidarité, de la générosité spontanée. Le cas de Montpellier n'est pas le seul, puisqu'il y a un mouvement qui s'est déjà propagé à de nombreuses villes. Mais à Montpellier, depuis novembre, 5000 repas ont été livrés aux plus démunis qui, pour la plupart, sont à la rue. Deliveru, c'est ça d'abord. Les uns cuisinent des plats, les autres les livrent à vélo, les cuistots d'un côté, les cuissots de l'autre. Lila Ruiz de Somocurcio est administratrice de Deliveru à Montpellier. Lila, ce qui me frappe, c'est la fraîcheur et la jeunesse souvent des bénévoles.
Alors oui, alors on a toutes les générations dans Deliveru, mais c'est vrai que ça a attiré beaucoup de jeunes.
Document numéro 1, deuxième écoute.
Une dizaine de personnes sont réunies autour de la table et se livrent au rituel des présentations.
Bonjour, je m'appelle Bénédicte. Je viens assez régulièrement petite cantine, un bal de temps. Ma météo du jour, ça va super bien, je suis contente. Je suis toujours contente de venir aux petites cantines.
Des retraités, des actifs, des étudiants, la seule chose qui réunit toutes ces personnes, c'est l'envie de passer un bon moment ensemble, explique la maîtresse de maison Orlane, salariée de l'association.
Il y a beaucoup de gens qui peuvent vivre des moments de solitude pour x et y raisons et qui souhaiteraient avoir un lieu de vie, un lieu où ils peuvent venir, la porte est toujours ouverte, rencontrer des gens, créer du lien, partager voilà, des moments conviviaux. Quand on cuisine ensemble, quand on épluche des légumes ou qu'on fait un bout de vaisselle, et ben on papote, on discute, on crée quelque chose.
Document numéro 2, deuxième écoute.
Un local au rez-de-chaussée de la fac de droit et de lettres, des rayons où sont entreposés des conserves, des condiments, des céréales, bref, une épicerie. Sauf qu'elle est réservée aux étudiants, malheureusement de plus en plus nombreux à être dans la précarité. Moulay Mamedi, étudiant en droit et l'un des responsables de l'épicerie, connaît bien le problème.
Déjà, je le vis. Moi, ça fait 6 ans que je suis étudiant, 6 ans que je suis en précarité.
Raison pour laquelle la Fédération étudiante de Bourgogne Interassociation, la FEBIA, a donc monté cette épicerie dont les produits à prix très réduits proviennent pour partie de la Banque alimentaire de Bourgogne et de chaînes de la grande distribution partenaire.
Document numéro 3, deuxième écoute.
J'ai peut-être trouvé avec Deliveru, un mouvement citoyen né en 2020 à Montpellier, l'exemple type de la solidarité, de la générosité spontanée. Le cas de Montpellier n'est pas le seul, puisqu'il y a un mouvement qui s'est déjà propagé à de nombreuses villes. Mais à Montpellier, depuis novembre, 5000 repas ont été livrés aux plus démunis qui, pour la plupart, sont à la rue. Deliveru, c'est ça d'abord. Les uns cuisinent des plats, les autres les livrent à vélo, les cuistots d'un côté, les cuissots de l'autre. Lila Ruiz de Somocurcio est administratrice de Deliveru à Montpellier. Lila, ce qui me frappe, c'est la fraîcheur et la jeunesse souvent des bénévoles.
Alors oui, alors on a toutes les générations dans Deliveru, mais c'est vrai que ça a attiré beaucoup de jeunes.
Fin de l'examen de compréhension de l'oral.